Europe Midi, Fabienne Lemoyle.
Bonjour à toutes, bonjour à toutes. Midi 30, bienvenue dans le journal de la mi-journée.
Nous avons un peu plus de 1000 patients hospitalisés en réanimation en Île-de-France. Libérer 200 lits nous permettrait de faire face à l'arrivée de nouveaux patients.
Les transferts de malades du Covid depuis la région parisienne ont commencé ce matin. 3 malades évacués par hélicoptère vers Angers, Le Mans et Nantes pour soulager les services de réanimation d'Île-de-France et cela va continuer tout le week-end. Dans le même temps, l'étau se desserre pour les pensionnaires des EHPAD. Les résidents vaccinés vont pouvoir sortir et voir leur famille sans faire de tests et sans être isolés à leur retour. Toujours dans l'actualité, l'attente à la Fédération française de football pour savoir si Noël Le Graët va rempiler pour un 4e mandat. 10 ans que le Breton est à la tête de la Fédération. Une 46e cérémonie des Césars très revendicative. Albert Dupontel a fait aussi carton plein avec 7 statuettes pour son adieu au con. Grand témoin du journal de la mi-journée, le psychiatre Patrice Huert, spécialiste des enfants et des adolescents, après la mort d'Alicia, 14 ans, à Argenteuil, frappée et jetée à la Seine par 2 camarades. La météo et du gris et du vent dans le nord, nous dira Valérie Darmon. Et puis, vous le savez, à 13h, on prolonge cette tranche d'information avec Tout Terrain, l'émission des reporters d'Europe 1. Gros plan sur la mobilisation des autorités pour éviter les affrontements entre bandes de jeunes. Séquence étonnante à bord d'un avion avec des policiers de la PAF qui surveillent les zones sensibles. Et puis, coup de chapeau à Justin Morin, récompensé par le prix Jeune Journaliste de la Fondation Varennes pour son reportage sur la pollution de la Seine diffusée en septembre dans Tout Terrain.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Olivier Véran l'avait annoncé jeudi soir en parlant d'une situation préoccupante dans les hôpitaux parisiens. Il fallait se préparer à des dizaines, voire des centaines de transferts de patients, alors qu'on est à près de 1100 malades en réanimation en Île-de-France. Eh bien, ça y est, Romain Noquet, ces transferts ont commencé ce matin au compte-gouttes.
Oui, les 3 premiers patients franciliens ont été évacués ce matin. Des évacuations par hélicoptère vers les hôpitaux de Nantes, Angers et du Mans. Il y en aura 10 ce week-end par voie aérienne. Dès la semaine prochaine, des TGV médicalisés pourraient prendre le relais avec 20 à 40 patients par voyage. Des transferts massifs, indispensables pour soulager durablement les services, estime Frédéric Annet, directeur médical du SAMU de Seine-Saint-Denis.
Ces transferts sont efficaces parce que, d'une part, on l'a expérimenté lors de la première vague, ça nous a donné une vraie bouffée d'oxygène. 20%, c'est un bon objectif. Actuellement, nous avons un peu plus de 1000 patients hospitalisés en réanimation en Île-de-France. Libérer donc 200 lits nous permettrait de faire face à l'arrivée de nouveaux patients. Après, moi, je ne peux pas vous dire quelle va être l'intensité de la vague qui va arriver dans les prochaines semaines, mais elle est source d'inquiétude.
Pour l'instant, 3 régions ont été sélectionnées pour ces transferts, les Pays de la Loire, l'Occitanie et la Nouvelle-Aquitaine. 2 autres patients arrivent d'ailleurs demain au CHU de Bordeaux. Ils pourraient être 60 d'ici la semaine prochaine, répartis entre Bordeaux, Poitiers et Limoges. Des malades dont le pronostic vital est engagé, mais qui doivent être stables, sans grand besoin en oxygène, même si le critère le plus délicat à remplir, c'est d'obtenir le consentement de la famille qui doit accepter le départ d'un proche à plusieurs centaines de kilomètres.
Romane. Et malgré ces tensions qu'on entend dans les services de réanimation en région parisienne, pas d'annonce de nouvelles restrictions en Île-de-France pour l'instant, alors que Dunkerque et le littoral niçois en sont à leur 3e week-end de confinement. Et hier soir, en visite à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, le Premier ministre Jean Castex a dit « Nous suivons au jour le jour cette situation pour nous tenir prêts à tout moment à prendre les mesures que celle-ci appelle ». Jean Castex en déplacement ce matin dans les Deux-Sèvres, qui s'est voulu cette fois rassurant sur la vaccination alors que le laboratoire AstraZeneca, comme nous le disait hier notre correspondante à Bruxelles, Isabelle Horry, va avoir de nouveau retard de livraison.
On s'est fixé, vous l'avez entendu, l'objectif national de 10 millions de primo-vaccinations le 15 avril. Je ne désespère pas qu'on le dépasse. Mais il vaut mieux être prudent, d'autant que vous avez vu que les laboratoires nous font parfois quelques misères dans le respect des délais de livraison. Donc il faut s'adapter.
Jean Castex en déplacement ce matin dans les Deux-Sèvres. Situation donc tendue dans certains hôpitaux de la région parisienne, on l'a vu. L'étau se desserre en revanche pour les pensionnaires des EHPAD. Protocole allégé, c'est ce qu'a annoncé ce matin dans le Parisien la ministre chargée de l'autonomie. Tous les résidents vaccinés vont pouvoir sortir des établissements, notamment Johanna Chabas, sans faire de test.
Oui, les résidents vaccinés qui ont reçu leurs 2 doses de vaccin pourront sortir sans devoir être testés avant ou après, ni être isolés 7 jours après leur sortie. Les parois de plexiglas entre les résidents et leurs familles sont aussi supprimées. Mais dans ce protocole, un point dérange tous les directeurs d'EHPAD que j'ai contactés. pour les patients non vaccinés, il faudra toujours être testé et s'isoler après. Une distinction qui pose des problèmes éthiques, selon Yann Reboulot, président du groupe Phylogéris.
Quand un résident n'est pas vacciné, lui aurait un isolement à son retour, lui devrait faire l'objet d'une surveillance particulière s'il participe à des animations avec d'autres résidents ou bien s'il est visité par des membres de sa famille. Enfin voilà, il y a quand même un régime un peu spécifique aux résidents non vaccinés. On invente un peu le passeport vaccinal pour les résidents d'EHPAD et pour les proches qui viennent les visiter.
Pour l'instant, 87% des résidents ont reçu un premier vaccin, 62% ont reçu leurs deux doses indispensables pour ces sorties sans contrainte. Alors il faut savoir que ce protocole ne représente que des recommandations. Donc dans plusieurs établissements, les sorties étaient déjà autorisées pour les résidents vaccinés ou pas. Pour les autres EHPAD, il ne faut pas s'attendre à des sorties tout de suite. Le protocole a été annoncé ce matin, il est certes effectif dès aujourd'hui, mais il faut un peu de temps pour que les établissements s'adaptent.
Johanna Chabas. Direction maintenant la Moselle avec une nouvelle manifestation ce matin à Spicheren. Des travailleurs transfrontaliers qui, depuis une dizaine de jours, vous le savez, sont soumis à des tests encore plus stricts pour rentrer en Allemagne. Sarah est aide-soignante. Elle travaille dans une maison de retraite à Sarrebruck, côté allemand, et elle doit désormais subir de plus en plus de tests alors qu'elle en subissait déjà deux par semaine.
Je suis à plus de 70 tests. Je me fais tester au travail et quand j'ai des jours de libre et que j'ai pas été pendant 48 heures donc en Allemagne, c'est ma copine infirmière qui vient me le faire à domicile. Bah c'est horrible hein. Par rapport déjà juste à nos collègues, je veux dire, on passe limite pour des pestiférés quoi. Tu viens de la France, donc c'est vous qui ramenez le virus. À croire qu'on a une étiquette sur la tête parce que quand on arrive au travail, et ben c'est ah Sarah, t'as le test. Ah, mais ma collègue qui est allemande à côté de moi, ben non, elle, il n'y a pas besoin, elle rentre comme si de rien n'était. Est-ce que ça, c'est normal peut-être? C'est de la discrimination, quoi. Moi, je demande juste à ce qu'on soit traité comme les autres, quoi. Une fois par semaine, je pense qu'un test, ok, il n'y a pas de problème, on peut le faire. Mais toutes les 48 heures, c'est inadmissible et c'est plus supportable, quoi. Je veux dire, on reste des êtres humains, hein.
Sarah, aide-soignante qui vit en Moselle et qui travaille donc en Allemagne, soumise à la multiplication des tests qui répondait à Mélina Fachin. C'est donc demain qu'aura lieu à Argenteuil une marche blanche en hommage à la jeune Alisha frappée, jetée dans la Seine par deux camarades de classe lundi. Un fait divers terrible qui interroge sur ce qui peut conduire des adolescents à une telle violence, qui pose aussi la question des réseaux sociaux, car des photos d'Alisha en sous-vêtements avaient circulé. Une forme de harcèlement que combat depuis des années l'association e-Enfance, qui depuis lundi d'ailleurs reçoit de plus en plus d'appels, des appels qui s'ajoutent aux 130 000 déjà pris en charge chaque année par l'association. Reportage Zoé Palier.
On t'écoute, bonjour. D'accord. Il continue de vous demander de l'argent ou pas? Est-ce que vous avez cédé au chantage?
Au bout du fil, une jeune fille démunie. Son ex-petit copain diffuse sur Snapchat une vidéo d'elle dénudée. Une histoire de revenge porn. Guillaume en écoute une dizaine par jour et lui explique le protocole à suivre.
Signaler son compte, bloquer le bien, imprimer les captures d'écran de manière à pouvoir déposer plainte et puis remplissez le formulaire qu'on vous a transmis de manière à ce que nous on puisse agir sur la suppression de ces comptes.
Cette année, 20% des appels ont conduit à des fermetures de comptes, parfois quelques minutes seulement après le signalement, se félicite Samuel Comblé. Il est directeur des opérations de l'association.
Il y a beaucoup de messages qui sont envoyés tous les jours aux réseaux sociaux. Ils n'ont pas forcément le temps, la réactivité. Et donc nous, on constitue un véritable dossier avec vraiment des preuves à l'appui. On facilite le travail du réseau social, ce qui fait que lui, en retour, accélère considérablement la prise en charge de la victime.
Chaque semaine, des anciennes victimes appellent pour remercier les écoutants, leur harceleur a été condamné, parfois à la peine maximale, 2 ans d'emprisonnement et 60 000 euros d'amende.
Zoé Palier, notez que dans quelques minutes, je reçois le psychiatre Patrice Huert, spécialiste des enfants et des adolescents.
Europe Midi, Fabienne Lemoine.
À suivre, une 46e cérémonie des Césars haute en couleur et très revendicative hier soir.
Europe Midi, Fabienne Lemoine.
Et comme le monde du cinéma avait à cœur d'exprimer son plaisir de se retrouver en vrai hier soir dans une salle pour la 46e cérémonie des Césars, alors que les cinémas, vous le savez, sont toujours fermés, beaucoup d'interpellations en tout cas adressées à leur ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, la capitaine Marlo Corinne Mazero qui n'a pas hésité à tomber la robe. Et on n'oublie pas le palmarès avec Albert Dupontel qui a fait un carton plein avec son Adieu au con qui a reçu 7 Césars lors de cette cérémonie très revendicative, Mathieu Charrier.
L'image de ces Césars restera Corinne Maziero, totalement nue sur la scène de l'Olympia.
Maintenant, on est comme ça, tout nu. Voilà.
Nos cultures, nos futurs peintes sur son corps. Le point d'orgue de 3h30 de cérémonie marqué par beaucoup de prises de parole politiques. Dès ses premiers mots, Marina Foïs donne le ton, une crotte de chien à la main.
Comme ça tue surtout les vieux, on a enfermé les jeunes et fermé les cinémas, les théâtres, les musées et interdit les concerts.
Roche Dizem, le président de ces Césars, lui emboîte le pas, regrettant que le milieu du cinéma se soit quitté, fâché l'an dernier, sans s'embrasser. Et chaque personne, ou presque, au micro, profite de la scène pour défendre une cause. Celle de la réouverture des salles, bien sûr, à l'image de Laure Calamy, sacrée meilleure actrice.
Laissez-nous exulter devant les œuvres d'art.
Le combat des intermittents aussi, qui a ressurgi. Quant à Jean-Pascal Zadi, réalisateur de Tout simplement noir, il a tenu à dénoncer les violences policières.
J'ai envie de parler de Adama Traoré, j'ai envie de parler de Michel Zecler.
On a assisté hier soir à l'une des cérémonies les plus sombres de l'histoire des Césars, d'autant que le réalisateur du film le plus primé, Albert Dupontel, auréolé de 7 récompenses, dont celle de meilleur réalisateur et de meilleur film, n'a pas fait le déplacement sur la scène de l'Olympia.
Mathieu Charrier, ambiance, on imagine beaucoup plus feutrée en ce moment à la Fédération Française de Football, quoique Jean-François Pérez. On attend toujours de savoir si Noël Le Graët va rempiler pour un quatrième mandat. Ça fait quand même 10 ans que le Breton est à la tête de la Fédération.
Exactement, il est grand favori pour se succéder à lui-même. Il vient de parler, là, il y a quelques minutes, dans l'auditorium de la Fédération Française de Football. Il faut dire que c'est une assemblée générale qui se déroule à huis clos, quasiment, hein, puisque tout le monde, ou presque, est par visioconférence, vu le contexte. Noël Le Graët qui s'est mis tout de suite dans une position présidentielle, une posture présidentielle. Il parle de ses relations avec l'État, du fait que la compétence, eh bien, ce soit lui qu'il incarne pour le foot français depuis des années. Il compte là-dessus, évidemment, pour être réélu pour un quatrième mandat. Face à lui, Michel Boulin, homme d'affaires pas très connu, qui ne devrait jouer qu'un rôle d'outsider, même s'il a eu un discours assez émouvant sur la jeunesse française, qu'on est en train de perdre. Le football, dit-il, est le dernier lien social et on ne peut pas le laisser mourir. Et puis en ce moment s'exprime Frédéric Thiriez, le troisième candidat. Lui a été président de la Ligue de football professionnel. Il a mis en avant toutes ses expériences politiques qu'il a pu avoir dans des cabinets ministériels, ses soutiens sportifs comme Basile Boli ou Jean-Pierre Papin. Mais normalement, il ne devrait pas y avoir de surprise. On attend la réélection de Noël Le Graët d'ici à quelques minutes.
Jean-François Pérez, chef du service des sports d'Europe 1, le rugby, Angleterre-France, 17h45, et les Bleus qui n'ont pas gagné depuis plus de 15 ans à Twickenham. Le manager de l'équipe de France, Raphaël Ibanez, s'attend à un match âpre contre les Anglais.
Ce qui est certain, c'est que pour cette équipe, nous avons des objectifs, voilà, des objectifs de victoire. L'Angleterre n'a pas cédé un pouce de terrain face aux Français depuis 2005. Voilà, 2005, ça place quand même l'enjeu de ce match et l'immense challenge qui nous attend. 2005, c'était loin. Ça fait maintenant 16 ans qu'une équipe de France n'a pas gagné sur le sol anglais. Donc, c'est surtout un magnifique enjeu pour ce groupe qui va se lancer à fond dans ce challenge qui nous attend.
Raphaël Ibanez avec Simon Rubin. Le handball avec l'équipe de France qui a fait un grand pas vers la qualification pour les JO, victoire 30-26 hier soir contre la Croatie. Et puis en football, suite de la 29e journée de Ligue 1 cet après-midi. Dans un quart d'heure, Angers-Saint-Etienne à l'heure du déjeuner et Marseille qui reçoit Brest à 17h. Il nous reste à voir le temps que nous réserve ce samedi Valérie Darmon. C'est gris et venteux dans le nord.
Effectivement, Fabienne, ces rafales qui atteignent 130 km/h localement sur les Hauts-de-France et le long de la Manche, 80-90 dans les terres de toute la moitié nord. Ce temps pluvieux qui gagne en ce moment la Gironde, les Landes, le nord du Massif central et de Rhône-Alpes, ainsi que la Franche-Comté et le sud de l'Alsace. À l'arrière, le temps qui reste toujours très nuageux avec des averses plus fréquentes et parfois orageuses près de la Manche et par moments d'ailleurs des giboulées accompagnées de grésils. Sur le sud du pays, de l'Occitanie aux Alpes-Maritimes, le temps est plus sec avec de belles éclaircies, en particulier autour de la Méditerranée, mais entre le Var et la Corse, le vent d'ouest est aussi assez fort, avec des rafales jusqu'à 90 km/h sur la Corse déjà. Et en soirée, la pluie arrivera sur les départements pyrénéens avec de la neige vers 1300 mètres d'altitude.
Merci beaucoup Valérie Darmon.
Europe Midi, Fabienne Lemoyle.
À suivre, c'est donc demain qu'aura lieu à Argenteuil une marche blanche en hommage à la jeune Alisha frappée et jetée dans la Seine par deux camarades lundi. Un fait divers terrible qui interroge sur ce qui peut conduire des adolescents à une telle violence. On en parle dans un instant avec le psychiatre Patrice Huert.
Europe Midi, écoutez le monde changer. Fabienne Lemoyle.
Il y a eu les rixes qui ont pris une tournure dramatique dans l'Essonne avec la mort de Lily Bell et Toumani, 14 ans. Et puis le drame d'Argenteuil, Alisha, 14 ans, aussi frappé et jeté dans la Seine par deux de ses camarades qui sont désormais en prison, mis en examen pour assassinat. Des faits divers terribles qui interrogent sur ce qui peut conduire des adolescents à une telle violence. Bonjour Patrice Huère.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce midi sur Europe 1. Vous êtes psychiatre, vous prenez en charge des enfants, des adolescents. Vous êtes aussi président de l'Institut du Virtuel Seine-Ouest qui justement travaille sur le risque des nouvelles technologies. Et c'est vrai qu'on a beaucoup parlé dans ces affaires du rôle des réseaux sociaux, dans le harcèlement, l'effet d'entraînement ou la déconnexion de ce qui peut être créé par rapport à la gravité des actes avec des ados coupés du monde. Mais déjà, vous qui rencontrez au quotidien ces ados, est-ce que cette violence vous étonne et est-ce qu'elle augmente, comme on le dit, chez les plus jeunes ?
Alors, c'est un vieux sujet, on l'entend régulièrement, mais je dirais depuis très 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 longtemps, l'idée que ça augmenterait. Les chiffres résistent à cette assertion, ça n'est pas si vrai que cela. Par contre, ce qui prend de l'ampleur, c'est la possibilité de diffuser les images, d'exciter, on pourrait dire, les pulsions qui n'attendent que ça. Et c'est ça plutôt qui est la nouveauté, c'est les réseaux sociaux, leur influence et le besoin de valoriser des actions qui peuvent apparaître comme héroïques aux yeux de certains, auprès des autres qui eux-mêmes sont à ce moment-là dans la surenchère. Mais la violence des jeunes, les bagarres entre bandes, etc., toute l'histoire en est pleine. Donc on a vu ça déjà dès le début du XXe siècle, à la Belle Époque, où ça défrayait la chronique et ça a même donné lieu en 1908 à un débat à l'Assemblée nationale concernant l'abolition de la peine de mort qui n'a pas été abolie du fait, disaient certains députés, d'une jeunesse pareille.
Patrice Huère, sans vous livrer bien évidemment à l'expertise psychiatrique de ces deux adolescents qui, selon les premiers éléments de l'enquête, ont tendu un guet-apens à la jeune Alisha Argenteuil, qu'est-ce qui explique que soudain on bascule dans l'extrême ? Est-ce que les adultes auraient pu voir ce qui allait se jouer, sachant que dans ce cas, le lycée avait pris des mesures, qu'un conseil de discipline était prévu ?
Oui, que là, des signes précurseurs aient été émis et auraient permis peut-être d'éviter le drame, je ne sais pas, l'enquête le dira. Mais il faut rappeler d'abord que ce type d'acte dramatique est extrêmement rare. C'est vraiment pas autant la violence, l'agressivité, les bagarres, les viols en réunion, etc. sont fréquents. Autant ce type d'acte est extrêmement rare. Donc, bien évidemment, ne connaissant pas les jeunes concernés, je me garderai bien de dire ce qui a pu générer chez eux cette violence. Mais on voit bien chez un certain nombre de jeunes impliqués dans d'autres histoires que la mesure des conséquences, l'appréciation des conséquences de leur acte n'est pas du tout ce qui les intéresse, étant donné qu'ils sont dans l'immédiat, dans le présent, et ne mesurent pas du tout l'impact que cela peut avoir.
Mais par exemple, leur rapport à la mort, ils ne le mesurent pas, justement. Vous dites que ce ne sont pas des adultes en miniature, ils sont en construction.
Ils sont en construction et là on a affaire à des jeunes très jeunes hein, puisqu'ils sont vraiment dans la première période de l'adolescence hein, et donc ils sont encore très jeunes. Le rapport à la mort à cet âge-là est absolument abstrait pour la plupart d'entre eux, c'est-à-dire c'est comme les petits-enfants qui jouent à la bagarre et boum, il y en a un qui, on lui tire dessus, il tombe par terre et puis il se relève quelques secondes après. Tout ça serait réversible et un certain nombre de supports, de jeux vidéo, etc. Alimentent aussi cette idée selon laquelle finalement la mort c'est pour les vieux, c'est pas pour les jeunes.
Quel rapport et quel rôle peuvent jouer les réseaux sociaux ? Vous le disiez, un effet d'entraînement, une déconnexion par rapport à la réalité, les jeunes coupés justement de cette réalité ?
Alors, la réalité va dépendre beaucoup de celle qu'ils connaissent dans leur vie quotidienne aussi, hein, bien évidemment, au-delà de l'impact des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ne sont que des amplificateurs. Il faudrait faire très attention à ne pas confondre les objets, les supports et ce à quoi l'on assiste. C'est comme tout outil, ils peuvent être extraordinairement utiles et extrêmement dangereux. Et ça renvoie les adultes, parents, enseignants, éducateurs, à vraiment renforcer l'attention qu'ils doivent porter à la préparation du bon usage de tous ces outils pour que les enfants devenant grands en tirent le meilleur et ne se perdent pas dans le pire.
De quelle manière, justement ?
Eh bien, en confondant progressivement la réalité et le virtuel, en ne mesurant pas l'impact que peut avoir l'exposition d'eux-mêmes sur les réseaux sociaux, exposition de leur corps, exposition de leurs émotions. Tout ça, pour eux, pour la plupart d'entre eux, est totalement déconnecté de ce qui peut se passer plus tard. Et en particulier, ils n'ont pas en tête l'idée que des images d'eux-mêmes peuvent être utilisées bien au-delà de leur périmètre de vie habituel et puissent être même problématiques pour eux quelques années, voire quelques décennies plus tard. Donc tout ça est absolument méconnu et nécessite vraiment un apprentissage de ces usages.
Patrice Huert, pour dépasser ces faits divers terribles dont on parle aujourd'hui, est-ce que quand même le confinement est un facteur qui aggrave les choses actuellement pour les adolescents et génère cette violence ?
Ça va dépendre aussi beaucoup des adolescents, bien sûr, et aussi de leur âge, hein, puisque les collégiens, par exemple, continuent d'être scolarisés. C'est dès lors qu'il n'y a plus de vie sociale partagée à l'école, je pense aux lycéens quand ils sont au lycée à moitié chez eux, et à plus forte raison pour les plus grands, les étudiants, et en particulier en première année, que là, les conséquences sont tout à fait visibles. Et depuis quelques semaines, je vois vraiment augmenter de manière très nette les signes de souffrance dépressive, d'angoisse, etc. Des ruptures de parcours, des ras-le-bol qui vraiment deviennent de plus en plus fréquents et alarmants. Hein. Donc, c'est vrai que c'est un âge où on se construit dans la relation aux autres et où, quand ces relations sont empêchées, cette construction est mise à mal et les renvoie à toutes les incertitudes, à toutes les failles qui font partie de la nature humaine dans ces âges-là.
Et est-ce qu'elle peut être génératrice de violence, justement, soit contre eux, soit vers l'autre ?
Alors, bien évidemment, la violence peut apparaître, ou les passages à l'acte de manière plus large, peuvent apparaître comme des solutions à court terme, qu'il s'agisse de transgressions, bah, du coup, des mesures de couvre-feu ou de confinement, par exemple, ou des passages à l'acte tournés contre soi, ou l'agressivité comme une sorte de décharge d'un trop-plein émotionnel qui ne trouve plus de possibilité d'être échangé, partagé avec d'autres pour être transformé en plaisir d'être ensemble, en création, etc., etc.
Merci beaucoup Patrice Huert, je rappelle psychiatre et je rappelle cet ouvrage publié aux éditions Anne Carrière et en livre de poche, Ni ange ni sauvage, les jeunes et la violence. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce midi sur Europe 1.